est 19h20, votre grand journal du soir sur Europe 1, Sébastien Krebs.
Et nous ouvrons le débat ce soir sur la Corse. Le dossier Corse est-il un problème insoluble pour l'État français? Nous en parlons jusqu'à 20h et vous intervenez quand vous voulez au 39-21. J'accueille ce soir mes invités. D'abord Dominique Paganelli, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'origine corse. Vous êtes d'ailleurs passé dans votre parcours à Europe 1 il y a quelques temps. Je ne sais pas il y a combien de temps. Et vous avez traité aussi la matière corse dans votre carrière. Jacques Folloroux est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi journaliste d'investigation au Monde et spécialiste du dossier corse, auteur de Parrain Corse, la guerre continue chez Plomb. Et Jean Garrigue est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste d'histoire politique et professeur à Sciences Po. Nous ouvrons le débat dans un instant. D'abord, Benjamin Muller est
avec nous. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis allé une fois en vacances en Corse, si je peux contribuer au débat.
Et ben voilà, c'est déjà une première contribution. C'est pas totalement insoluble.
Non, voilà, ça marche encore. Mon expertise.
En attendant, comme chaque jour, vous regardez les autres médias, vous écoutez les radios. Vous avez choisi quel sujet aujourd'hui?
J'ai choisi la petite nouvelle du jour, comme dit Pascal Praud.
Parmi les petites nouvelles du jour également, il y a l'interdiction de la fessée.
Ah, attendez, c'est tout sauf une petite nouvelle ça.
Autrement dit, à l'avenir, fessée interdite.
Eh oui, c'est même une sacrée révolution qui a mis du temps à arriver jusqu'à la France. Roselyne Bachelot en parlait sur LCI.
Alors, on a du recul sur cette affaire, puisque la France ne fait pas œuvre novatrice. Elle est le 55e pays à interdire les violences éducatives ordinaires.
Alors, bien sûr, les premiers intéressés sont forcément pour cette loi. Des enfants, donc. C'est sur France 2.
Et les enfants, les principaux intéressés, la méritent-ils, cette fessée?
Non. Ça arrive jamais?
Non.
Alors, déjà, on dit non. Monsieur, petit effronté, qui en mériterait une, allez, un autre.
Ben non, je ne les mérite pas. Non. Je fais pas de bêtises.
Ah, les mythos, lui aussi en mérite une. Mais bon, on ne peut plus, c'est comme ça, c'est la loi. Alors vous l'imaginez, cette interdiction fait sacrément débat comme sur CNews.
Là, c'est clairement l'État qui vient de votre salon, quoi. Ça me choque.
C'est tellement bien de filer des roustes aux gosses.
Non, mais c'est pas ça l'alternative, en fait.
Voilà, souvent d'ailleurs, vous êtes soit totalement pour, soit totalement contre cette interdiction. Il n'y a pas trop de place pour la nuance. Un pro fessé sur LCI.
On va commencer à dire aux parents ce qu'ils doivent faire. Les parents, ils sont autonomes. Eh bien, je suis désolé, mais une famille, c'est pas la démocratie. Voilà, il y a une règle, il faut la respecter. Bah,
bien, c'est bien connu, la famille, ça doit être la Corée du Nord. Ça, c'est sûr, merci monsieur. Alors, plutôt que de frapper, il y a toujours une alternative qui marche bien, je vous la conseille, c'est la punition. Privé de console, privé de sortie, voire même privé de dessert, n'est-ce pas Jean-Pierre?
Privé de dessert, ça pourrait être assimilé à une violence psychologique interdite aussi.
Aïe, voilà. J'ai donc dit une bêtise, pardon, je retire aller le mot de la fin à cette témoin qui est une adulte, c'était sur TF1.
À quand date votre dernière fessée?
Alors là,
une fessée,
alors là, et ouh,
bon, vu comme elle rigole, elle devait penser aux fessées entre adultes consentants, mais sa bonne nouvelle, j'ai vérifié, c'est pas interdit.
Merci beaucoup, Benjamin Muller sur Europe 1, 19h23, dans un instant, le débat.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 et avec vous Sébastien Krebs, vous invitez jusqu'à 20h. Jacques Folloroux, journaliste d'investigation au Monde, spécialiste du dossier Corse, auteur de Parrain Corse, la guerre continue, paru chez Plomb. Jean Garrigue, historien, spécialiste d'histoire politique, professeur à Sciences Po, et Dominique Paganelli, journaliste d'origine corse.
Pourquoi la Corse est-elle un problème insoluble pour l'État français? C'est la question que nous nous posons ce soir avec cette visite d'Édouard Philippe qui a commencé aujourd'hui à Bastia. Longue réunion entre le Premier ministre et les leaders nationalistes de Lille. On en était resté à Emmanuel Macron, sa visite boycottée au mois d'avril dernier. Cette fois, le dialogue a repris. Qu'est-ce que vous diriez, Dominique Paganelli? Ça va mieux, le dialogue a été renoué aujourd'hui?
Si le dialogue a repris, c'est que ça va mieux. Mais il faudrait que le président Macron se tienne à ce qu'il avait dit durant sa campagne électorale, à savoir le pacte girondin. Parce que si il continue à œuvrer sur une politique très jacobiniste, comme il est en train de le faire aujourd'hui, il est évident qu'en Corse, où on cherche une certaine forme d'autonomie, on va se raidir. Et si l'on se raidit, il n'y aura pas possibilité de dialogue. Si aujourd'hui vous me dites que grâce à l'intervention du Premier ministre, le dialogue a été renoué, très bien. Mais dans quel sens? Pourquoi et dans quel but?
Alors c'est ce qu'on va voir. Jean Garrigue, peut-être un mot. On a entendu tout à l'heure Gilles Séméoni sur notre antenne qui a dit à ce stade, ok, on l'a vu, on a accepté de discuter, mais il n'y a aucune avancée. Est-ce que justement, on va vers un nouveau raidissement?
Est-ce qu'on peut considérer que la politique qui est menée est une politique d'autisme jacobin? Je pense que les choses sont peut-être un peu plus complexes que ça. Il me semble quand même qu'il y a une ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, qui depuis un an fait des va-et-vient permanents avec la Corse pour essayer de discuter, de résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a effectivement des tensions qui existaient avant l'avenue d'Emmanuel Macron, qui ont été peut-être attisées par la manière dont cette visite s'est déroulée. Mais je pense que le dialogue n'a jamais été interrompu. De manière plus, comment dirais-je, en prenant un peu de recul, il me semble que, au fond, ce qui nous apparaît de l'extérieur comme les facteurs de tension les plus importants, et on pourrait dire aussi les revendications qui sont celles des indépendantistes, ou en tout cas des nationalistes au sens large, autour de la co-officialité de la langue corse, autour du statut de la
sont les revendications
constitutionnelles de la Corse, etc. Je me demande si, au fond, c'est le plus important, parce que le plus important, c'est la situation socio-économique de la Corse. C'est là que les vrais problèmes se situent. Et c'est vrai que sur un certain nombre de questions aujourd'hui, pour des tas de raisons qui sont imputables à la fois, me semble-t-il, à l'État et à la gestion, la transition qui est celle de la collectivité de Corse, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui sont un peu au point mort et qui méritent en effet d'être relancés. On a peut-être l'occasion de les détailler.
Bien sûr. Jacques Follereau, c'est plus compliqué. Le dialogue, il est devenu plus compliqué parce que les nationalistes sont au pouvoir. C'est lié.
Alors, juste déjà rappeler quand même que la Corse est quand même le territoire français qui bénéficie de la plus grande autonomie qui soit, à plein d'égards, au niveau de la gestion, au niveau des transports, au niveau des aides sociales. Il y a un grand nombre de secteurs importants, financièrement importants, stratégiques, qui sont aujourd'hui entre les mains du pouvoir de cette coalition, à la fois nationaliste et autonomiste. Donc c'est juste, je pense qu'il faut quand même reposer les choses doucement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a davantage un questionnement sur la capacité de ce pouvoir nationaliste et autonomiste à gérer l'île, qu'a posé la question aujourd'hui, est-ce que la responsabilité de l'État sur le blocage de l'île ? Parce que aujourd'hui, on est dans quelle situation du côté corse ? 2015, cette coalition nationaliste et autonomiste arrive au pouvoir, un peu par surprise. Il y a, une période de transition qui nous amène à 2017, date où ils sont réélus dans le cadre d'une collectivité unique. Donc il y a eu une restructuration de tout le cadre institutionnel de l'île. On s'est dit, bon, là, la phase de transition est terminée, maintenant ils vont pouvoir agir. On est encore 2 ans plus tard, ça fait 4 ans, et aujourd'hui se pose la question, à commencer au sein de la population corse, mais qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les résultats ? Et en face, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un discours politique qui ressemble quasiment mot pour mot à celui qu'avaient les nationalistes à l'époque où ils étaient dans l'opposition. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les gouvernants actuels de l'île vont réussir à être autre chose que les opposants, avoir un langage qui soit autre chose que celui de l'opposition qui va taper sur l'État en disant toute tous les malheurs de l'île relèvent de la responsabilité de l'État. Je vous rappelle juste que sur la réponse de l'État, justement je viens à votre question, le grand débat, la réponse justement d'Emmanuel Macron, elle a été de dire « mais attendez, moi je ne vais pas sur le terrain idéologique, je ne vais pas sur le terrain politique ». C'est vrai qu'on peut discuter l'aspect symbolique sur la spécificité de l'île, inscrire ça dans la Constitution, mais moi je viens ici, et c'est ce qu'il a fait dans son discours, en discutant, ok, parlons dossier par dossier, on va gérer l'île, on va faire avancer les dossiers, on va sortir du clientélisme, on va être efficace. Et là, aujourd'hui, les suites du grand débat aujourd'hui, c'est que, par exemple, l'État a créé une conférence des maires qui veut justement permettre à l'île de se développer. Et c'est vécu de nouveau par un prisme très, très idéologique, par les nationalistes, comme un contournement de leur pouvoir. Donc je pense que aujourd'hui, c'est ça un peu les débats. Est-ce qu'il y a suffisamment de maturité politique et surtout de capacité gestionnaire du côté de la coalition nationaliste au pouvoir à montrer qu'ils sont capables de mettre en place finalement tous les idées qu'ils avaient, et l'autonomie, ils l'ont.
Dominique Paganelli, le Premier ministre dit « moi j'arrive avec du concret, il parle d'économie, il parle de formation professionnelle, on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds en face, parce qu'effectivement les leaders nationalistes, eux, veulent des avancées sur le terrain politique. C'est un dialogue de sourds ?
Moi je pense que c'est un dialogue de sourds, parce que contrairement à ce que dit Jacques, je pense que le social comme le politique vont ensemble. Il y a une relation, on ne peut pas dire « je m'occupe du social » puis viendra le politique. Non, les deux vont ensemble. La forme de l'autonomie et l'aide sociale doivent aller ensemble. Mais c'est vrai que les dirigeants nationalistes sont pour l'instant sur un terrain qui est celui simplement de l'idéologie. Et lorsque Il suffit d'aller en Corse, il suffit que les gens leur demandent « Mais qu'est-ce que vous faites pour les routes ? Qu'est-ce que vous faites pour ça ?» La réponse, elle n'existe pas. Mmh. Il ne peut pas y avoir un combat idéologique ou un dialogue idéologique, il faut du concret. Mais le concret, ça n'est pas que le social. C'est également la forme politique.
C'est-à-dire que c'est en effet, on est au cœur du sujet aujourd'hui. Et ça, c'est pas nous, Parisiens, ici dans ce studio, qui, d'une certaine manière, à qui ça importe en premier lieu. C'est la société corse, c'est la population corse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme preuve, comme élément concret des capacités de gestion de ceux qui sont au pouvoir depuis 4 ans? Je suis désolé. Les nationalistes depuis les années 70 portaient le refus du clientélisme, une meilleure redistribution de la richesse. En finir avec justement les guerres de clans, etc. La captation de la richesse par des familles, etc. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont au pouvoir, les trois dossiers majeurs aujourd'hui, et là je reviens sur la gestion, et c'est pas que le social, c'est l'économie, c'est la capacité, c'est la vie ensemble. Vous avez l'affaire des déchets qui n'en finit pas finalement de ne pas être résolue, qui est un problème majeur. Vous avez le problème du transport maritime, qui aujourd'hui voit une formidable concentration. Il y a une création de monopole qui va contre l'intérêt à la fois des intérêts de l'île, mais aussi des intérêts de ceux qui utilisent ces moyens-là. Et enfin, pour répondre à la question, à l'espoir que portait nationaliste, qui était fort, qui était crédible, légitime, vous avez eu la justice qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour des délits de favoritisme concernant l'attribution d'un marché très important qui est celui de la fibre optique sur l'île. Ça veut dire quoi? Alors on verra ce que la justice arrivera à démontrer si elle ouvre une information judiciaire, etc. Mais néanmoins, c'est un fait. Déjà, des soupçons pèsent sur le pouvoir de l'île, nationaliste, sur leur capacité finalement à faire table rase de ces pratiques du passé.
Jean Garrigue, est-ce qu'il se trompe de combat en quelque sorte en se plaçant sur le terrain politique alors qu'il y a des urgences économiques, les nationalistes ?
La question n'est pas de se tromper de combat. De manière objective, si on regarde les 40 dernières années, on est allé vers de plus en plus de concessions. Il y a eu un statut en 82, en 91, et puis maintenant la collectivité de Corse qui est entrée en vigueur en début 2018. Sur le plan strictement politique, administratif, on est allé de plus en plus vers l'autonomie. Les grandes familles qui confisquaient le pouvoir sociopolitique, culturel de l'île ont eu tendance à s'estomper. Et c'est vrai que les problèmes qui se posent aujourd'hui, ce sont des problèmes qui imputent, qui concernent plus exactement la gestion par la collectivité de Corse et par cette alliance dont il faut voir qu'elle est pas tout à fait cohérente entre des indépendantistes et des autonomistes. C'est pas tout à fait la même mouvance, c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Et puis on voit apparaître aussi ces soupçons de clientélisme, de favoritisme à travers ce marché des fibres, un certain nombre de sous-traitants qui seraient liés au pouvoir politique nouveau, celui de Jules Simeoni et de Jean-Guy Talamoni. Donc tout ça pose quand même des questions, et j'ai l'impression qu'en focalisant effectivement les enjeux sur ces questions d'identité politique de la Corse, de reconnaissance institutionnelle de la Corse, on passe à côté effectivement des véritables enjeux. Dans une île où il y a 20% de la population, enfin des foyers en dessous du seuil de pauvreté, où 75% de la production, enfin de l'économie vient du tertiaire, on sait bien que là il y a des enjeux majeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que si on reste à se focaliser sur ces questions-là, le Corse, l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution, on passe un peu à côté effectivement des problèmes majeurs qui se posent.
Pourquoi la question corse est-elle une question si insoluble pour l'État français? C'est la question que nous nous posons ce soir. Le débat continue dans un instant sur Europe 1.
Vos invités, Sébastien Krebs, jusqu'à 20h. Dominique Paganelli, journaliste spécialiste des dossiers corse. Vous êtes passé par la rédaction d'Europe 1. Jacques Folloroux, journaliste d'investigation au Monde, spécialiste des dossiers corse, auteur de Parrain Corse. La guerre continue, paru chez Plon. Et Jean Garrigue, historien, spécialiste d'histoire politique, professeur à l'Université d'Orléans.
Et on se pose la question ce soir, pourquoi la Corse est-elle un problème insoluble pour l'État français? On le disait à l'instant, Jean Garrigue le disait, la région a obtenu des statuts dans le passé plusieurs fois. Peut-être la question qu'on se pose ce soir, Dominique Paganelli, c'est pourquoi ça n'a jamais suffi finalement, ces différents statuts d'autonomie que la Corse a obtenus.
Parce que ça n'est sans doute pas l'objectif que se fixent les Corses. Pourquoi l'autonomie serait-il devenu un gros mot? Oui, il y a eu des avancées, bien évidemment, il y a eu des avancées. Mais ce qu'on recherche, ou ce que disent en tout cas les représentants de la collectivité, c'est l'autonomie. Je ne parle pas d'indépendance, là, hein, je parle d'autonomie. La Corse est la seule île de la Méditerranée à ne pas avoir ce statut. Ça n'est pas parce qu'on a donné petit à petit un certain nombre de choses que l'on va se contenter de cela, forcément. Et c'est vrai, en même temps, alors je ne sais pas la question de la co-officialité, je n'ai pas de point de vue véritablement
de la langue.
Là-dessus, de la langue, pardon. Mais c'est vrai que les nationalistes, les autonomistes, pardon, ont fait une proposition à l'État sur un statut d'autonomie qui ressemblait un peu à celui de la Sardaigne, un peu à celui de la Sicile, etc. Il n'y a pas eu de réponse. Quand vous dites... Comment se fait-il qu'entre Paris et la Corse, on ne s'entende pas, on ne puisse pas s'entendre? C'est pas vrai. On peut s'entendre. Mais est-ce qu'on dit la même chose? Est-ce qu'on veut parler de la même chose?
Moi, c'est arrivé à une époque que le gouvernement à Paris soit sur la même ligne que...
Oui, sous Jox. Quand Jox était ministre de l'Intérieur, oui, il y a eu des avancées, il y a eu de véritables discussions, il y a eu des avancées, oui, c'est vrai, et intéressantes. Mais moi, je pense, contrairement à ce que vous dites, c'est que ce gouvernement reste jacobin et veut défendre, contrairement à ce qu'il dit, mais son attitude même avec Mme Gouraud, etc., est terriblement jacobin. Et là, il y a un hiatus parce que je pense que nous ne sommes plus dans cette situation où le jacobinisme représente la démocratie. Je pense au contraire qu'il faut donner au territoire un certain nombre d'autonomie. Et ça, c'est l'expression de la démocratie en général.
Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce que la Corse a déjà aujourd'hui,
donc,
Jean-Garry ?
Moi, soyons clairs, je n'ai pas dit que la politique menée était une politique qui n'était plus jacobine, car le jacobinisme reste le fond de sauce des politiques républicaines. Et on a bien vu à quel point Emmanuel Macron tenait à réaffirmer ses principes. Maintenant, là où vous avez raison aussi, c'est que, en particulier avec ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes et avant avec la fracture territoriale, il semblerait qu'on soit passé dans un nouvel acte du quinquennat Macron et qu'effectivement, par rapport aux revendications qui sont celles de la Corse, il y aurait des signes à donner justement de ce nouveau pacte girondin. Je suis tout à fait d'accord que ça peut être même utilisé comme une sorte de laboratoire, d'expérimentation de cette nouvelle manière de gérer la périphérie. Maintenant, ce qui a été dit aussi, on est obligé de le constater, c'est que ce qui existe aujourd'hui, le statut d'autonomie de la Corse, c'est le statut, j'allais dire, le plus progressiste, le plus avantageux en termes politiques. Et que donc, on pourrait considérer aussi que les Corses pourraient se satisfaire déjà de ce qui est et peut-être accepter un dialogue peut-être un peu plus, je dirais, positif, productif avec le pouvoir. Et il me semble d'ailleurs que c'est un peu le cas, il me semble comprendre que, je le répète, entre d'un côté Jean-Guy Talamoni et de l'autre côté Gilles Simeoni, les positions ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour parler clair, il me semble que c'est un peu plus facile de discuter avec Gilles Simeoni, que là, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Mais là, moi, je ne suis pas à l'intérieur de la machine.
Il se peut également que la partie Talamoni ne veuille pas véritablement discuter avec Paris.
Ah, voilà.
Ils sont sur des positions idéologiques et... qui empêche le dialogue d'avancer, vous diriez, Jacques Follon ?
Disons, sur les rapports de force, juste préciser qu'aujourd'hui, la fraction nationaliste, pure et dure, est très minoritaire. Aujourd'hui, il y a eu un renversement
Ils ont quand même gagné les élections, avec une majorité.
Dans une coalition. Aujourd'hui, le courant majoritaire, ce sont les autonomistes. Et d'ailleurs, là, dans le cadre des futures élections municipales, les autonomistes, derrière M. Simeoni, et derrière leur parti FEMU à Corsica, sont en train de pousser pour éventuellement des primaires, pour pouvoir se compter. Et il y a un grand nombre de gens qui suivent Simeoni, qui se disent, d'ailleurs, ce serait bien qu'on y aille seul, ou qu'on y aille avec des gens... pourquoi pas de La République En Marche, etc. En tout cas, peut-être plus progressiste, soucieux d'être dans une logique plus gestionnaire, etc. Donc les nationalistes, si vous voulez, ils sont aujourd'hui dans une situation qui est compliquée. Et il faut ajouter un élément, c'est-à-dire que les nationalistes purs et durs, ils restent encore en contact avec des gens qui ont appartenu, structuré la clandestinité. Qui a déposé les armes en 2014, certes, mais dont les chefs, et c'est vrai qu'il y a un chef de la clandestinité aujourd'hui qui est Charles Pierry, qui pèse encore politiquement, qui a des responsabilités aujourd'hui officielles, publiques, au sein de la structure, au sein du mouvement nationaliste. Et c'est une personnalité qui est visible, qui assiste aux réunions et dont l'ombre, si vous voulez, reste voilà, autour d'aujourd'hui la gestion de l'île. Et ça fait, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de soupçons qui pèsent sur lui. Donc c'est juste pour vous dire que la galaxie indépendantiste, enfin nationaliste et autonomiste, elle est plus compliquée qu'on ne le croit. Par ailleurs, pour mémoire, pour pas qu'il y ait de fantasmes, aujourd'hui, l'histoire a quand même montré que une grande majorité des Corses n'étaient absolument pas favorables à une indépendance. C'est-à-dire, il y a eu un vote à l'époque sous Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, pour savoir, la question institutionnelle, elle a déjà été posée à l'ensemble du corps social, Corse, et la réponse a déjà été donnée. Par ailleurs, sur l'aspect violence, sur l'aspect lutte armée, de même, on a le FNNC, si vous voulez, n'a jamais rien eu à voir avec les mouvements armés au Pays Basque ou en Irlande du Nord. Rien à voir. C'était toujours une violence de harcèlement, une violence attirer l'attention pour ensuite porter des revendications politiques.
Mais quand on regarde les revendications aujourd'hui, qu'ils appellent les revendications fondamentales, donc on le disait, co-officialité de la langue corse à côté de la langue française, ça veut dire la traduction en gros de tous les documents officiels dans les deux langues, création d'un statut de résident qui serait nécessaire pour investir dans l'immobilier, par exemple, rapprochement des prisonniers corses, bon, et inscription de la Corse dans la Constitution avec une autonomie accrue, on a le sentiment qu'au moins par certaines de ces revendications-là, ils ne pourront jamais les obtenir compte tenu de la Constitution française. Est-ce qu'il faut rester sur ces revendications-là ? Est-ce que ce n'est pas ça qui empêche le dialogue ?
Mais c'est une revendication symbolique, là, ce que vous venez de dire. On est quand même beaucoup dans la revendication sémantique. Et ça nous ramène au début de notre discussion. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas sur une revendication de gestion, on est sur une revendication de symbole, sur une revendication de totem. Et là, après, ça touche au symbole. Et en effet, et je pense qu'on peut aussi accorder le fait que dans la longue histoire, l'histoire des relations entre l'État et la Corse, on est beaucoup sur une question de symbole, c'est-à-dire que il y a cet État sacralisé, centralisé, qui considère de sa plus haute mission d'avoir un contrôle absolu et équitable sur tout son territoire. Et de l'autre côté, une revendication a une spécificité. Et toutes les personnes, quelle que soit leur opinion, peut admettre qu'il y a une spécificité en Corse par sa situation géographique, par son histoire, sa culture.
Ouais, Jean-Garic, vous êtes d'accord ? On bloque depuis des années sur des questions qui sont des symboles.
Oui, ça a toujours été totémique. Je veux dire que ce qu'ont été les comportements du préfet Bonnet, par exemple, c'était typiquement des comportements inspirés par cette vision très, très centralisée, très centralisatrice, jacobine, l'attitude des ministres de l'Intérieur, de Chevènement, Jean-Louis Debré, ont été là aussi inspirés par ces réflexes totémiques, d'un côté comme de l'autre. De l'autre, c'était pareil. À toute époque, enfin depuis une quarantaine d'années, c'est pas d'aujourd'hui, peut-être même avant, ça a toujours été ces problèmes-là qui ont dominé au fond la polémique et les tensions entre l'État central et la Corse. Alors qu'en réalité, les véritables problèmes ne sont pas là. On les a évoqués tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sont des problèmes de logement, de transport, de déchets, enfin, d'organisation.
Et là, on revient sur les questions concrètes.
De l'élevage, de promotion de l'élevage là-bas. Enfin, il y a plein de choses.
On marque une toute petite pause et le débat continue dans un instant jusqu'à 20h sur Europe 1.
Vous écoutez Sébastien Krebs sur Europe 1 et vos invités, Jean Garrigue, historien, spécialiste d'histoire politique, professeur à l'Université d'Orléans, Dominique Paganelli, journaliste spécialiste des dossiers corse, vous êtes passé par la rédaction d'Europe 1, et Jacques Folloroux, journaliste d'Investigation au Monde, spécialiste du dossier corse, auteur de Parrain Corse, la guerre continue chez Plomb.
Dominique Paganelli, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vos co-débatteurs disaient à l'instant, c'est-à-dire qu'on est sur des débats entre la Corse et la métropole sur des faux dilemmes finalement et pas sur les choses les plus importantes.
Sur le continent, vous voulez dire Sur le continent, mais oui. Si l'idéologie guide et Paris et la Corse, on ne pourra pas s'entendre. Et manifestement, c'est ça. Quand on dit ce sont des dialogues entre guillemets totémiques, ce sont des dialogues d'idéologues. Et il est évident qu'on ne peut pas nouer de véritables discussions dans ces cas-là. Il y a des éléments concrets qu'il faut régler, mais moi je pense qu'ils sont concrets, qu'ils soient politiques ou économiques et qu'ils doivent aller ensemble. On ne peut pas, à mon avis, ne pas parler... On ne peut pas parler d'aide économique, de développement économique, si on ne parle pas en même temps de modification du statut politique de l'île.
c'est, les deux choses vont ensemble,
me semble-t-il.
Jacques Follereau, vous vouliez réagir.
Non, oui, là, peut-être si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'avait dit M. Garrigue juste précédemment. C'est-à-dire sur les faux désaccords, sur en effet ces dialogues de sourds, en tout cas en surface, mais dans le fond, quand on vit en Corse ou quand on vit sur le continent, on ressent la même chose et on pense d'une certaine manière souvent de la même manière. Et je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, qui est la réaction de Lille, des Corses, juste après l'assassinat du préfet Erignac. Donc on est début 98, Lille tout entière est dans la rue. Vous avez un nombre de personnes dans les grandes villes qui manifestent, c'est du jamais vu. Et ils portent tous le même discours que sur le continent. Mais eux encore de façon encore plus vive et encore plus légitime, puisqu'ils vivent en Corse. Donc c'est, on ne veut plus justement de ce primat donné à la force, à la violence, la place, l'omniprésence des armes à feu, les groupes criminels, qui soient nationalistes ou qui soient des groupes armés, que ce soit nationalistes ou mafieux, etc. Ils en avaient assez de cette société clientéliste, etc. On l'a dit. C'est le même ressenti que sur le continent. Et si vous voulez,
Un échec aussi pour l'État français de ne pas avoir réussi à régler ces problèmes de banditisme et de violence.
Moi, je pense en effet que s'il y a un troisième pouvoir sur cette île dont on ne parle jamais, et d'ailleurs ni le pouvoir actuel aux commandes de l'île, le pouvoir nationaliste et autonomiste, ni l'État, c'est en effet que cette île, elle est aujourd'hui sous emprise criminelle. Et ce n'est pas simplement des bandes qui vivent au banc de la société. Non, ce sont des gens qui sont très impliqués dans le trafic de drogue, dans le racket, et qui depuis 30 ans, qui se succèdent les uns aux autres. C'est la cohabitation de gangs criminels et qui pèsent sur l'économie, qui pèsent sur la démocratie. Quand on dit l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une emprise sur les marchés publics, aussi sur les marchés privés, sur l'installation de grandes surfaces. Et quand on dit emprise sur la démocratie, c'est l'emprise sur les élus. C'est la facilité justement d'obtenir des permis de construire, d'avoir des informations à l'avance, c'est aussi l'intrusion dans l'entrisme dans des structures publiques qui sont les tribunaux de commerce, pour savoir un peu comment évolue, etc., la vie économique de l'île. Et ça, on n'en parle pas. Et je vais vous dire qu'en 2010, je me souviens qu'en 2010, l'ancien président de l'Assemblée de Corse, qui s'appelle Dominique Bucchini, déjà s'exprimait à la tribune en disant « il y a un problème mafieux sur l'île, il y a un problème de violence, il faut que la société corse réagisse, il faut que l'État nous aide, etc. » Il l'a dit en 2010, je me souviens qu'il l'a dit en 2012, après encore une autre série d'assassinats. Le pouvoir nationaliste aujourd'hui et autonomiste n'en a pas dit un mot publiquement à l'Assemblée.
Jean Garrigue, c'est un échec. Oui, allez-y, Dominique Payet, vous voulez réagir?
Jacques a parfaitement raison, c'est bien ça le problème, parce que s'ils ont été élus, dans l'esprit et dans des Corses, c'était pour en finir avec ce qu'ils avaient connu. C'est-à-dire la pègre, la mafia, le clientélisme, le clanisme. Et là, manifestement, on n'a pas l'impression que l'on va dans cette direction.
Ils ne s'y sont pas attaqués particulièrement.
Ce n'est pas qu'ils ne sont pas attaqués. Peut-être certains sont-ils sous l'emprise d'eux. Et ça, c'est grave. Donc, il y a tout un débat qui est un débat en même temps politique, qui doit se mener et dont on n'a pas l'impression qu'il est en train de se mener.
Jean Garrigue, on ne peut pas comprendre cette question corse sans cet aspect-là.
Ah oui, ça me paraît évident. Et c'est vrai qu'il y aurait presque une fenêtre de tir, en tout cas du côté des autonomistes, Gilles Simeone, avec les intérêts de l'État central. Je veux dire que combattre justement ces mafias, en fait, qui contrôlent une partie de l'économie corse, quelle partie, je ne sais pas, mais en tout cas une bonne partie, c'est un combat qui peut, je veux dire, être une convergence, vous voyez, entre l'État central et les collectivités de Corse, les institutions. Mais encore faut-il pour ça que se crée ce climat de confiance. C'est là toute la question. On nous dit, on entend que ce climat n'est pas créé. Est-ce que tout ça relève de fantasmes, relève des totems dont on parlait tout à l'heure, ou d'une réelle volonté d'agir? Et c'est vrai que ce qui se passe là sur cette question de l'installation de la fibre optique et c'est cette suspicion de clanisme, de clientélisme, de favoritisme, évidemment ne joue pas en faveur de ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir territorial. Parce qu'on se dit que si c'est pour refaire ce qui était fait par ces grandes familles qui ont effectivement contrôlé l'île pendant des décennies, peut-être même des siècles, c'est pas du tout ce qu'attendent les Corses. Et là, les problèmes ne seront pas résolus.
Oui, juste pour ne pas stigmatiser simplement la société corse, ce diagnostic, il doit être aussi fait par la puissance publique.
On a l'impression qu'il n'est pas nouveau ce diagnostic. Écoutez, et pourtant que rien ne s'est passé.
Écoutez, la première fois qu'un gouvernement français a prononcé le mot mafia en Corse, c'était en 2012, après deux actes transgressifs très puissants qui ont fortement et durablement marqué les mentalités, les esprits en Corse. C'était l'assassinat de l'ancien bâtonnier d'Ajaccio, Antoine Solacaro, et l'assassinat du président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio.
Qui a prononcé ce mot ?
C'était Manuel Valls, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Ce que je veux dire, c'est que ce diagnostic-là, si on le fait, si on considère qu'en effet, il y a un bout du territoire français qui est sous emprise, qui est pris en otage, dans ces cas-là, il faut que la puissance publique se donne les moyens à la hauteur de ce système criminel organisé, un système mafieux, qui n'est pas simplement, qui ne relève pas simplement du banditisme classique. Ça veut dire qu'il faut mener un travail au long cours, un travail très profond, et qui relève finalement aussi de la responsabilité collective. Et je ne crois pas aujourd'hui que l'état d'esprit de l'État, de façon collective, soit à ce niveau-là et soit adapté au problème.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir tous les trois si bien posé ce débat sur la Corse ce soir au premier jour de cette visite d'Edouard Philippe sur l'île. Merci Jacques Folleroux, donc journaliste d'investigation au Monde et auteur de Parrain Corse, la guerre continue, c'est chez Plomb. Jean Garrigue, historien spécialiste d'histoire politique et professeur à l'université d'Orléans, et Dominique Paganelli qui est journaliste également. Merci à tous les trois. Europe 1.